Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous. Alors ici, vous le savez, notre seule préoccupation, c'est de prendre soin de vous jusqu'à midi en direct. Et ce matin, Mélanie, quel sera notre grand dossier du jour?
Eh bien, il y aura de l'amour dans l'air dans notre émission. Et vous savez, en amour, on entend souvent deux proverbes, les opposés s'attirent ou à l'inverse, qui se ressemblent, s'assemblent. Eh bien, on va les décortiquer tous les deux ce matin. On parlera des différences dans le couple, si parfois elles font le sel des relations amoureuses. On verra qu'il existe aussi des différences inconciliables. On analysera tous les détails des méandres qui font les couples grâce à l'aide de Cécilia Como. Elle est psychanalyste, sexologue clinicienne et thérapeute de couple.
Ensuite, à 11h45, ce sera comme tous les jours notre séquence tendance avec nos chroniqueurs. Et les tendances du jour, elles seront dans la réparation aujourd'hui. Puisque d'une part, avec notre experte beauté Maud Ravier, on va parler des dernières techniques esthétiques pour effacer ou améliorer les cicatrices. Et enfin, avec Cécile Como, d'autre part, on va découvrir ce que sont les Repair Café. Il en pousse comme des champignons. Ce sont des ateliers de réparation collaboratifs où des bénévoles, tous passionnés de bricolage, réparent tout genre d'objets. Ben voilà pour le menu du jour. Bien fait pour vous. C'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Ce matin, on va enquêter sur ce qui fait vraiment les couples qui marchent. On va donc s'interroger autour de deux proverbes bien connus, les opposés s'attirent ou bien à l'inverse, est-ce que qui se ressemble, s'assemble? Qu'en pensez-vous, Julia?
Je pense que c'est valable pour les chiens, parce qu'ils se ressemblent en vieillissant. Mais pour les hommes, franchement, je n'ai aucune idée de tout ça. Mais heureusement, on va décortiquer les choses dans quelques minutes avec notre invité. Mais avant ça, c'est Clément Lanoux qui va nous révéler tous ses secrets amoureux et ceux des Français qu'il a interrogés pour nous. Bonjour Clément.
Bonjour tout Bonjour. Le monde, vous savez à quel point j'aime les sujets sur l'amour. Et déjà je vous interroge, à votre avis, si vous regardez votre couple, est-ce que vous êtes un peu pareil que votre conjoint ou est-ce qu'au contraire c'est le strict opposé? Mélanie.
Malheureusement, en vieillissant, je crois qu'on se ressemble de plus en plus.
Physiquement?
Ah non, pas physiquement. Non, je parle sur le reste. Le reste.
Eh bien, moi, j'ai parlé de mon couple professionnel avec Mélanie Gomez et j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout pareil et qu'on s'entend à merveille.
Ouais. Ah bah, peut-être que les opposés s'attirent. C'est en tout cas la question que j'ai posée en me promenant dans la rue. J'aurais demandé aux Français que je croisais, est-ce que, à choisir, vous préférez un chéri ou une chérie qui vous ressemble ou au contraire, qui est votre total opposé?
Je suis intriguée par l'autre, en fait. Non, ça ne m'intéresse pas du tout qu'il soit comme moi. Parce que je m'ennuie facilement. Donc du coup, je suis intriguée par l'autre. Il faut absolument qu'il soit qu'il me choque, qu'il me surprend tout le temps.
Alors oui, il faut découvrir des choses chez l'autre. Mais il y a des personnes qui ne savent pas trop.
Non, moi je suis attirée par les garçons faibles, c'est tout. Oui, non, les garçons sensibles. Non, je suis sensible aussi, donc oui, en fait, un peu. Si je suis attirée par ce qui est comme moi.
Et oui, finalement, il y a des choses.
C'est bizarre de chercher des garçons faibles.
Oui, mais elles sont faibles aussi, donc finalement, les opposés s'attirent. Alors pour les personnes en couple depuis un moment, c'est comment?
Ça dépend des thèmes. On se rapproche sur beaucoup de choses et on est complémentaires sur d'autres et très différents sur d'autres.
Non, c'est pas le total opposé. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, donc il y a un moment où forcément on se rejoint quand même. Non, c'est pas le total opposé, mais on est quand même très différents. Bon, on n'a pas du tout la même... par exemple, lui, il est campagne et moi, je suis ville. Lui, il est casanier, moi, je pense qu'à sortir. Voilà, il est grand, je suis pas grande. Je pense que c'est pour ça que ça fait longtemps qu'on est mariés.
Voilà, ou alors on se voit pas du tout parce qu'elle est à la ville pendant qu'il est à la campagne, ou ainsi de suite. Alors, sujet évidemment d'actualité, surtout ce matin, il y a quand même quelque chose qui peut justement faire que les couples sont vraiment très opposés.
D'un point de vue, par exemple, politique, j'aurais du mal à être avec quelqu'un qui est complètement du bord opposé au mien.
Et oui, et ça a été l'embrouille de la semaine.
On en parlera dans l'émission.
Se dire, est-ce que si on ne vote pas pareil, on peut être ensemble? C'est un sujet, donc je suis allé voir des spécialistes, encore une fois, vraiment les plus grands spécialistes en amour, les enfants qui ont toujours la vérité, qui résument finalement plutôt bien cette situation.
Bah, ça serait bien qu'on ait des points communs, mais pas totalement tous les mêmes, parce que sinon c'est pas très drôle. Parce que comme ça, on pourrait se faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas.
Oh, ça, c'est pas mal.
Ça promet, hein.
Exactement. Ouais. Moi, je pense qu'il faut être très différent, mais avec des passions communes.
Très bien. Merci beaucoup, Clément, pour cette intro. À présent, on va accueillir notre experte des questions amoureuses, Cécilia Como. Bonjour.
Bonjour, Mélanie. Bonjour, Julia. Bonjour, Clément.
Bonjour.
Vous êtes une habituée de l'émission, mais je rappelle que vous êtes psychanalyste, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et l'autrice du livre Le couple parfait n'existe pas aux éditions Flammarion. Alors, on a longtemps entendu l'adage qui se ressemble, s'assemble, mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par se ressembler, Cécilia, au départ? C'est d'ailleurs pas une question d'amour, je crois, ce proverbe. Hein. C'est plutôt un dicton socio-anthropologique, non?
Alors, c'est un dicton qui se fonde finalement, effectivement, sur une réalité qui a été démontrée par les sociologues, qui sont venus nous dire que finalement, dans les couples que nous formons, ce qui prédomine, c'est l'homogamie, c'est-à-dire se mettre avec quelqu'un qui me ressemble. Et par « me ressemble », on peut imaginer que c'est déjà partager quand même un socle de valeurs communes et avoir une vision du monde suffisamment similaire pour pouvoir élaborer des projets ensemble. Et puis, j'imagine que ça semble être, je dis bien semble être, un facilitateur de complicité parce qu'il y aura moins d'efforts à faire sur quelqu'un qui me ressemble. Et je dis semble parce que moi, je pense qu'au contraire, la complicité, elle se nourrit de la différence.
Cécilia, parfois, on croise même des couples qui se ressemblent physiquement.
Vous parliez des chiens. Hein.
Oui, bah, je trouve que les maîtres ressemblent de plus en plus à leurs chiens et l'inverse. Mais aussi, dans les couples, on a l'impression parfois de croiser des frères et des sœurs. Est-ce que ça, c'est une coïncidence ou c'est une évidence ?
Alors, en tous les cas, c'est pas qu'une impression. Je pense que c'est ni une coïncidence ni une évidence. C'est une attirance pour ce qui nous est familier. C'est-à-dire, beaucoup d'études se sont interrogées sur ce sujet en constatant que des couples étaient quand même très similaires et en se posant la question si c'était réellement une coïncidence. Et en fait, il est avéré, parce que les études convergent sur l'idée qu'on est naturellement attiré par quelqu'un qui nous est familier. Donc c'est comme ça qu'on se met plus...
Mais Mélanie, pourtant vous aimez bien les grands Suédois, vous.
Moi, j'aurais dû me mettre avec Clément Lannou, on est requins tous les deux. Mais avec mon mari, on se ressemble du point de vue pondéral. Donc, en 17 ans, on a pris 10 kilos chacun, donc tout va bien. Clément ?
Alors si je vous suis justement, on se rassure plutôt en allant vers quelqu'un qui nous ressemble. Et est-ce qu'à l'inverse, vous pensez qu'on comble quelque chose en allant vers l'opposé ? Quelque chose qui nous manque à nous ?
Alors, c'est une excellente question. Oh là, on pourrait faire l'émission. Ouais. Oui, la familiarité sécurise. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va vers la familiarité. Dans ce qui est très différent de moi, il y a deux options. Mais on y reviendra, je pense, sur justement ce qu'a dit votre expert, à mon avis, le plus cortiqué, c'est-à-dire le dernier.
Voilà,
parce que c'est tout à fait juste. Il y a soit une opposition où on va être attentif aux complémentarités et pouvoir finalement les intégrer, soit une opposition qui n'est que rechercher ce qui est en creux chez moi.
Et qu'est-ce qui est le mieux, vous qui envoyez des filets ? Est-ce qu'il y en a un à conseiller ou pas ?
Ben dans la deuxième option, vous vous retrouvez avec beaucoup de couples qui, au départ, trouvent que c'est formidable si moi je suis hyper extravertie et que lui est plutôt introverti parce que ça fait preuve d'une certaine sagesse que je n'ai pas. Et quelques temps plus tard, quand je fantasme moins ce trait de caractère, je commence à dire il est inhibé, il est ennuyeux. Donc c'est ça la difficulté, c'est de vouloir combler quelque chose qu'on ne possède pas. Oui,
oui, parce que là, on parlait aussi des débuts amoureux. On ne se rend pas toujours compte des différences qui existent avec notre compagnon. De toute façon, on le trouve formidable et il nous trouve formidable. Pourquoi est-ce qu'on s'en rend compte plus tard, en fait, de ces différences ? Au départ, on est aveuglé, on ne veut pas voir ce qui nous différencie ?
Alors, on est toujours aveuglé au départ. Mmh. C'est justement ce qui est merveilleux dans l'amour, parce que si on y allait avec les yeux grands ouverts, un calepin...
On n'irait pas.
Et un stylo, oui, on n'irait pas. On irait faire autre chose. Donc, on est toujours aveuglé et biologiquement, c'est-à-dire chimiquement et psychologiquement pour aller vers l'autre. Mais effectivement, ce qui fait très souvent d'ailleurs, on se rend compte que ce qui m'a attiré est exactement aujourd'hui ce qui m'insupporte. Mmh. Et c'est souvent dû, je reprends la question de Clément, au fait que j'ai fantasmé finalement ce que l'autre possédait et que je ne possédais pas. Et à un moment donné, il y a un couple dans mon livre qui l'illustre assez bien, c'est-à-dire que elle est très ambitieuse et elle se met avec quelqu'un qu'elle considère comme très léger. Mmh. Donc elle trouve ça très bien parce que ça apaise un peu son sérieux à elle. Et au bout d'un moment, de léger, elle le trouve finalement dilettante, ce qui est beaucoup moins sexy pour elle. Et pour la bonne raison qu'à un moment donné, ce qu'elle ne pouvait pas tolérer chez elle, c'est-à-dire cette légèreté, elle se remet à ne plus pouvoir le tolérer chez elle, ni chez lui. Donc elle ne le tolère pas de l'extérieur, ni de l'intérieur.
Là, vous venez de parler d'ambition. Est-ce que justement se ressembler, au moins du point de vue professionnel, est-ce que ça compte au départ ? Parce qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup, beaucoup, et plus qu'on ne l'imagine, de couples qui se forment au boulot. Hein.
Alors, c'est principalement au boulot, justement, que
ou
les couples
le voisinage,
se forment.
Hein.
Bah, oui, mais selon les enquêtes, si on doit faire un podium, c'est encore, et c'est très étonnant, parce que moi, je pensais que les applis et les sites de rencontres avaient un peu bousculé. Ça, c'est en passe de le bousculer, mais c'est encore au boulot. Je pense que c'est plus une question de partage au travail que de ressemblance. C'est-à-dire qu'on est dans une promiscuité spatiale, temporelle et intellectuelle, et j'ai l'impression que ce partage qui semble assez unique, de dire lui avec je vis des choses avec cette personne qu'on ne peut pas comprendre ou que je ne vis pas ailleurs, crée justement ce sentiment de ressemblance.
Oui, alors que c'est pas de la vraie ressemblance au fond. Eh bien merci Cécilia, vous restez avec nous, on va continuer à se questionner ce matin sur ces deux proverbes, qui se ressemblent s'assemblent ou à l'inverse, les opposés s'attirent. Je sais pas si on arrivera à trancher complètement la question ce matin sur Europe 1, mais en tout cas, on va analyser les différences ou les similarités amoureuses qui font que la mayonnaise prend ou ne prend pas. D'ailleurs, si vous souhaitez témoigner ou même nous poser une question, n'hésitez pas, appelez-nous au 3921, notre répondeur, ou laissez-nous un message sur le compte Instagram de l'émission.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Ce matin, on réfléchit ensemble à cette question. Que valent réellement les deux proverbes suivants ? Les opposés s'attirent ou bien à l'inverse ? Est-ce que ce qui se ressemble s'assemble ? Pour en parler, elle est toujours avec nous ce matin, Cécilia Como. Vous êtes psychanalyste, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Alors, de façon générale, Cécilia, est-ce qu'on est attiré par des personnes qui partagent au moins, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais les mêmes valeurs communes, un socle, mais il comprend quoi ce socle au minimum, on va dire.
Alors, déjà, pour être attiré, c'est pas forcément quelqu'un qui nous ressemble. Mais pour je pense même plutôt l'inverse. Mais pour construire un foyer, ça oui, c'est une vraie différence. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'on, dans le proverbe, on dit qu'il se ressemble, s'assemble. On parle bien de assemblage. Et là, effectivement, ça veut dire construire quelque chose. Et la différence attire et la ressemblance sécurise. Donc, sur les ressemblances fondamentales, moi, je pense vraiment que c'est large, hein, c'est assez généraliste, mais c'est assez basé sur une vision du monde commun. Quelque chose quand même qui peut se superposer de la manière dont je vois le monde et la manière dont l'autre voit le monde. Ça me semble essentiel.
Donc ça comprend la politique, les valeurs, j'imagine. Est-ce que ça comprend, je sais pas, l'envie ou pas d'avoir des enfants, c'est tout ça ?
Alors ça parle de projets finalement, plus que de points particuliers.
D'accord.
La politique, on pourra en discuter. Mmh. Ça engendre aussi une vision du monde. Mais par exemple les enfants, là on est vraiment dans construire. Mmh. Tout ce qui va amener à construire quelque chose, à élaborer un projet, va être effectivement, c'est plus facile avec quelqu'un qui partage la même vision. Les gens qui ne la partagent pas, eux, sont obligés à des arrangements. Et quand les arrangements échouent, ça ne fonctionne pas.
D'ailleurs, Cécilia, les sites de rencontres dont on parlait tout à l'heure, ils sont un peu fondés sur ces compatibilités d'affinité, non ? Parce que le but de ces sites, c'est que de nombreux couples se forment.
Hein ? Ah mais oui, c'est une compatibilité qui est vérifiée par les algorithmes, qu'on peut appeler, je dirais, c'est moins romantique, mais c'est une compatibilité algorithmique. Donc on retire tout ce qui peut être différent pour ramener que du même, avec cette idée qu'il y aura moins de friction si on superpose ensemble deux personnes qui ont exactement les mêmes points de match, quoi.
Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ces émissions de télé-réalité dans lesquelles on assure aux participants qu'ils peuvent se marier quasi à l'aveugle avec telle ou une telle là, parce que parfois ils sont compatibles à 90%. J'imagine que vous êtes déjà tombé dessus. C'est crédible ça ou pas ?
Alors moi, je suis hyper dubitatif parce que déjà vous regarderez effectivement, ça promettait une espèce de compatibilité à 90% et il n'y a à peu près, je suis même pas sûre qu'ils arrivent à 15% de couples qui restent ensemble. Donc on est quand même très en deçà de la moyenne générale des couples. Et puis je pense que ça fait l'impasse sur quelque chose qu'on répugne assez à mettre en avant, qui est le physique. Beaucoup d'études montrent que quand on interroge par exemple les femmes qui disent qu'en priorité c'est la personnalité de celui qui est en face, eh bien quand on affine les enquêtes, on se rend compte qu'elles sous-estiment énormément
le physique.
L'importance du physique au premier regard.
Hein. Mais oui, parce qu'on est du genre à dire, on entend souvent les femmes dire « Oh, mais c'est pas grave, il a beaucoup d'humour. Hein, » Mais en fait, pas tant que
ça. Parce qu'on sous-estime énormément. Je pense que c'est moins... c'est peut-être plus trivial. Mais il y a quelque chose en plus qui nous échappe, qui est assez inconscient. C'est-à-dire qu'on a des yeux quand même.
Bah oui.
Et qu'ils envoient une information et que cette information qui est à la première, deuxième, troisième seconde est extrêmement prise en compte.
Alors, on a justement Gaëlle en ligne avec nous. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Alors, je crois que vous aviez rencontré un garçon il y a quelques années, mais très vite, vous vous êtes rendu compte que vous ne partagiez pas notamment les mêmes idées politiques, c'est ça ? Comment ça s'est déroulé pour vous ?
Oui, effectivement. J'ai été rendu compte très vite. Non, pas très vite. Mais on n'est pas tout à fait les mêmes idées politiques. Mais je pense qu'au-delà, ce qu'on dit tout à l'heure, j'entends en écoutant l'émission, au-delà de la politique, c'est même, on parle vraiment de valeurs humaines.
Qu'est-ce qui vous différenciait très fort alors ?
Eh ben, par exemple, c'est vrai que pour moi, je suis quelqu'un qui est tourné vers l'autre, j'ai beaucoup d'empathie, l'empathie, c'est l'amour des autres. Et lui, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'était plutôt le retour sur soi, sur moi d'abord, sur son confort personnel, et puis il fallait éviter de parler à tous les gens que vous connaissez pas, enfin voilà, ça l'intéressait pas, alors que moi, c'est tout l'inverse, quoi.
Oui, vous étiez très opposés, mais Gaëlle, est-ce que vous considérez-vous que dans un couple, il faut au moins avoir les mêmes opinions politiques ou proches, tout du moins. Est-ce que vous pensez que vous pourriez être avec un garçon qui vote Le Pen si vous vous apprêtez à voter Macron, par exemple ?
Non, effectivement, je pense qu'effectivement, derrière ces valeurs, derrière ces partis politiques, il y a comme des valeurs qui font ce qu'ils sont. Et moi, qui suis plutôt de gauche, avoir quelqu'un qui soit de droite, extrême droite, quand j'ai encore entendu hier tout ce qui s'est dit sur l'immigration, sur les autres, sur le rejet de l'autre, en fait, c'est le repli sur soi total. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour moi. Donc, c'est vrai que politiquement, si c'est vraiment sur les extrêmes, c'est pas possible. Mmh. Après, je pense que être avec quelqu'un de droite, j'ai des gens que je connais très bien qui sont de droite et avec qui je m'entends super bien parce qu'ils partagent aussi, certains, cet amour de l'autre ou du prochain, cette empathie. Donc ça n'y a pas de souci, on se retrouve dessus.
Et vous, Gaëlle, à partir de quand vous êtes dit, je ne sais pas combien de temps a duré votre histoire, vous allez nous le dire, mais à partir de quand vous êtes dit, bon là, c'est pas possible, on est trop différents ?
Ouais, je suis resté un an et demi quand même.
Ah oui.
Ouais, parce qu'en fait, bon, à la quarantaine, on se dit qu'on va pas trouver la personne idéale, donc il va falloir composer avec les défauts des autres. Et bien en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas des défauts, mais c'était des valeurs qu'on ne partageait pas. Et ça, les défauts, alors, on parlait de compromis, on peut faire des choses, ça peut marcher ou pas, mais en tout cas, on est capable de corriger des défauts. Sur quelqu'un qui est maniaque, il peut se rendre compte qu'il va lâcher un peu de mou, ou à l'inverse, qui est bordélique, on peut aussi dire, bon, allez, vas-y, il va faire des efforts de ranger. Mais les valeurs, moi, je me rends compte que ma valeur, je vais mourir avec mes valeurs. Je pense, j'espère.
On est un petit peu plus aigu
quand on vieillit, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, a priori, va rester. Donc, en fait, quand on se rend compte, au bout d'un moment, donc un peu tardivement, parce que j'ai essayé de mettre toutes mes chances de mon côté, puis je le mets quand même pour d'autres choses, c'est vrai que de dire que, finalement, c'est des valeurs qui vont vraiment me gêner tout le temps, parce que dans la rue, je vais finir par avoir honte de ce qui peut être. Qui peut ressortir et ça me gêne.
Eh bien, merci beaucoup Gaëlle pour votre témoignage. Cécilia, je me tourne de nouveau vers vous. Si on est d'accord sur tout dans le couple, la politique et le reste, franchement, il n'y a plus aucun débat. On n'a peut-être plus grand-chose à se dire si on est toujours OK. Est-ce que le risque, ce n'est pas quand même de s'ennuyer avec quelqu'un qui nous ressemblerait trop ?
Toute la richesse de la différence, c'est la complémentarité. Et ce que disait Gaëlle, c'est qu'effectivement, à un moment donné, dans le couple qui décrit, il n'y a plus de complémentarité. Quand il y a effectivement, on a des valeurs, c'est ce qui nous donne une place dans une société. On y croit. Je pense que ce terme de croire en quelque chose est important. Et dès l'autre que dès l'instant où les valeurs de l'autre heurtent, en fait, c'est ça la violence, heurtent les nôtres, il y a quelque chose qui est plus possible.
Mmh. Ça casse quelque chose.
Oui, et en même temps, pour répondre à votre question, si l'autre est exactement le même que moi, il me reste, que me reste-t-il à apprendre ? Que me reste-t-il à explorer ? Il y a quelque chose, même si c'est très sécurisant, la ressemblance, c'est pas pour certaines personnes, c'est pas suffisant. Parce
et c'est
que
pas
tout
très
monde...
érotique, hein, si.
Bah, tout le monde, d'abord, tout le monde n'a pas envie de vivre dans une sécurité permanente. Il y a des gens qui en ont besoin. Mais c'est vrai que si je n'ai rien à explorer, parce que finalement, le territoire psychique de l'autre, je le connais déjà par cœur, le risque, c'est effectivement de m'ennuyer, oui.
Oui, mais à l'inverse, est-ce qu'on peut dire que dans les couples qui sont très opposés, alors Gaëlle, ça n'a pas marché, mais il y en a certains qui marchent, mais on a l'impression que la relation sera peut-être plus intense, peut-être plus courte aussi. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, l'opposé, on a l'impression que c'est plus passionnel. Est-ce que c'est vrai tout le temps, ça, d'ailleurs ?
Ouais. Les disputes, tout ça.
Alors, il y a deux formes d'opposition. Y a, encore une fois, il y a une forme... quand vous parlez, finalement, de l'opposition passionnelle avec plein de disputes, souvent, ça ressemble quand même à une espèce d'opposition qui est une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que je veux absolument convaincre l'autre que ma vision du monde est plus intéressante ou plus légitime que la sienne. Donc ça, ça donne en général des grands éclats, ça paraît très chouette, ça semble effectivement un peu comme quand on met des bûches dans le foyer de la cheminée, ça semble relancer, mais au bout d'un moment, ça épuise. Et puis, il y a cette opposition quand même, où on arrive à trouver finalement les complémentarités, c'est-à-dire m'enrichir sur ce que je ne possède pas et que l'autre possède. Ça, ça me semble effectivement... ça me semble vraiment quelque chose de très constructif pour les couples.
Et Cécilia, vous êtes aussi sexothérapeute, alors que, est-ce que quand, pour, sur le sexe, il faut aimer les mêmes choses ? Est-ce qu'il faut avoir envie au même rythme ? Ou est-ce que si on n'est pas au même diapason ?
Ça fait partie des valeurs fondamentales, ça.
Alors, le sexe, c'est assez particulier, parce que sur ce qui est, encore une fois, de la qualité, on peut quand même supposer que c'est encore une fois la différence qui gagne, parce que on va apprendre quelque chose avec l'autre, on va s'enrichir sur son univers sexuel, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, on va découvrir des choses différentes. Sur la notion de fréquence, ça c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça fait appel à la gestion de la frustration. Est-ce que je suis capable de gérer le fait que j'ai faim 5 fois par jour et que l'autre n'a pas envie de manger 5 fois
oui,
par jour.
Oui, puis ça va, ça vient. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a très envie, des moments enfin, dans la vie ça peut être fluctuant quoi. C'est ça.
Ben, bien sûr, mais du coup c'est pour ça que c'est plus lié à la gestion de la frustration, mais c'est vrai que ça pose vraiment un souci d'avoir du mal à s'accorder et beaucoup d'hommes, parce que c'est quand même eux, aimerait bien rencontrer en face quelqu'un qui soit le même à ce niveau-là.
Qui a envie de manger 5 fois.
En termes d'appétit. Quel même appétit.
Allez, merci Cécilia, vous ne bougez pas, on a encore pas mal de mystères amoureux à percer avec vous et on a déjà reçu pas mal de questions aussi de nos auditeurs pour vous à ce sujet. On y répondra dans un instant. Quid des grandes différences d'âge notamment, on n'en a pas encore parlé, et quand ce sont les cultures des deux amoureux qui sont diamétralement opposées, comment faire pour que cela ne soit qu'une richesse pour les deux et pas des affrontements sans fin? On y revient dans quelques toutes petites minutes sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On s'intéresse ce matin aux ressemblances ou aux grandes différences dans les couples. Alors, qui se ressemble s'assemble, ou à l'inverse, ce sont les opposés qui s'attirent. Peut-être que la vérité est un peu au milieu. En tout cas, on analyse tout ça ce matin avec Cécilia Como, psychanalyste, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. On a parlé surtout des couples qui se ressemblent jusqu'à présent. On va se tourner à présent plus en détail vers ces opposés qui s'attirent. Soyons honnêtes, Cécilia. Moi, je trouve qu'au début, au moins, c'est ce qui pimente la rencontre. J'ai vu que vous étiez d'accord, la différence avec l'autre, les difficultés, les obstacles. Mais moi, j'ai l'impression quand même que plus un homme ou une femme paraît inaccessible, plus au départ, en tout cas, il va nous attirer. C'est bien ça ?
Mais oui, évidemment. L'autre qui est insaisissable, mystérieux parce qu'il ne me ressemble pas, il m'intrigue. Ce qui n'est pas moi m'intrigue toujours. Donc, c'est aussi pour ça qu'en général, sur les attractions très fortes, on est souvent dans quelqu'un qui ne me ressemble pas.
Et souvent, dans les attractions très fortes, on est amené à se dire « mais jamais j'aurais pensé que cet homme m'attirait aussi, non ?» Il y a cette surprise de l'attraction.
Et c'est exactement pour ça que je suis toujours un peu triste de voir cette compatibilité algorithmique, parce que justement ça, elle le retire. Cet homme qui, selon toute vraisemblance, n'avait rien dans mes critères d'attirance m'attire, et avec lui je vis 20-30 ans heureuse, bah celui-là, on ne le rencontrera jamais sur un site.
Alors justement, pour illustrer ce propos, nous avons une auditrice en ligne avec nous, c'est Sabrina. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Sabrina, donc vous êtes en couple, et un couple un peu particulier parce qu'il n'y a pas une différence. Enfin, de nous, aujourd'hui, on parle des opposés qui s'attirent. Il y en a même peut-être deux qui ne vous séparent même pas, qui vous unissent depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire ?
Oui, bien sûr. Alors, du coup, je suis en couple depuis 4 ans maintenant. Donc, c'est une histoire assez atypique. Donc, j'ai rencontré, donc je vous mets son prénom, hein, donc j'ai rencontré Adam en 2015. Donc, quand j'étais au lycée, j'avais tout juste 16 ans et demi. Donc, c'était mon prof du lycée. On est resté en contact après le bac. On avait pour habitude de se parler, de prendre de nos nouvelles. Et au fait, donc, c'était quelqu'un qui était marié. Donc, ensuite, quelques temps après, il a divorcé. Donc, du coup, quand on s'est mis ensemble, j'avais 20 ans. Et lui, du coup, 40. Mmh. On a exactement 20 ans d'écart.
Est-ce que ça vous a fait peur au départ, en tout cas, la différence d'âge à vous et à lui, peut-être, d'ailleurs ?
Alors, très sincèrement, au départ, je ne pensais pas que j'allais rester avec lui. On était plus sur de la rigolade. Et en fait, on s'est pris à notre propre piège. Et au moment où, oui, j'ai commencé à tomber amoureuse, là, j'ai commencé à avoir peur. Et lui aussi.
Peur de quoi ?
De notre différence d'âge, de lui se dire est-ce que je ne vais pas rencontrer quelqu'un de plus jeune que lui ? Parce qu'il avait un peu peur. Et moi, j'étais pas rassurée parce qu'il avait déjà eu sa vie, son passé, ses 3 enfants. Et pour moi, c'était inenvisageable quoi, de me mettre avec quelqu'un qui a déjà des enfants.
C'est quoi aujourd'hui les particularités justement de cette grande différence d'âge dans votre couple ? Est-ce qu'il y a des problèmes ou des avantages même peut-être avec ce grand écart ?
Alors, très sincèrement, ça va être au niveau de la famille. Donc, je vous avouerai, ma famille, il y a 3 problèmes qui posent. C'est de par son origine. Enfin, je suis d'origine algérienne marocaine et lui, en fait, les Sénégalais mauritaniens. Donc, ma famille ne voulait pas trop de mélange. Ensuite, de par son âge, quand ils ont appris qu'il avait 44 ans, ça a été un choc pour eux. Alors, en plus de rajouter les 3 enfants, là, c'est pas passé. Donc, malheureusement, depuis un certain temps, je ne parle plus avec ma famille.
Donc, aujourd'hui, c'est ça les principaux problèmes. Mais vous diriez que vous êtes un couple, en tout cas, uni. Et pour vous, vous arrivez à surmonter tous ces problèmes au quotidien ?
En fait, c'est ce qui nous a fait tenir, hein, je pense, que si je suis avec lui depuis tout ce temps, c'est qu'on s'aime tellement, notre amour est tellement fort qu'en fait, même si la femme, même si on émet des jugements sur notre couple ou autre, on se comprend. On est ensemble, on s'aime et on est là l'un pour l'autre. Et là, je n'ai posé aucun souci, quoi.
Bon, et on vous souhaite encore de nombreuses années de bonheur. Vous aviez une question, je crois, pour notre experte en plateau, Cécilia Como. Vous vouliez lui poser une question, on vous écoute.
Alors, en fait, je voulais savoir comment est-ce que je pourrais rassurer mon copain sur le fait que je ne le tromperais pas, puisqu'il il a un petit peu peur de ça, que j'aille voir ailleurs, puisque... Il n'est pas très jeune, quoi.
Et que vous êtes encore très jeune, et ça l'effraie apparemment.
Exactement.
Alors Cécilia, qu'est-ce qu'on peut dire à Sabrina pour l'aider ?
Alors, effectivement, pour Sabrina, là, la confiance, parce que c'est une histoire de confiance, et c'est un vaste sujet en soi, en l'autre. Alors, pour rassurer l'autre, en général, qu'est-ce qui rassure quelqu'un ? Le désir qu'on a pour lui, pas forcément sexuel, mais cette notion de « je t'ai choisi », de réitérer son choix pour telle et telle raison, ce qu'on a envie de partager avec lui, parce que quand on se projette avec quelqu'un, ça suppose quand même qu'on est bien avec lui et qu'on compte pas partir avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, moi, je dirais, alors peut-être que ça va surprendre Sabrina, mais je dirais quand même que peut-être que son conjoint pourrait avoir une ou deux séances avec un thérapeute. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'anxiété qu'il concerne lui, en fait, pour y voir plus clair sur cette histoire de jeunesse et de vieillesse. Parce que je pense que lui, ce qui peut être assez anxiogène, c'est que il avance en âge et que il perd confiance en lui, en fait, et que donc je pense que là, rééquilibrer un peu les choses sur ce qui est en train peut-être lui de le faire souffrir est quelque chose qui le concerne plus lui qu'elle, en fait.
Mmh. Donc c'est pas une thérapie de couple. Hein, c'est
d'ailleurs, Cécilia, ça me fait penser en cas d'infidélité. Est-ce que ça marche sur le même modèle de qui se ressemble s'assemble ou les contraires s'attirent ? C'est-à-dire est-ce qu'on va chercher à tromper son partenaire avec une personne qui est totalement opposée ? À son partenaire ?
Pas forcément, en fait. Et puis, je pense que tout dépend un peu de ce qu'on cherche. Si c'est le frisson, on va plus aller vers quelqu'un de différent parce que c'est quelqu'un qui aurait pu m'attirer mais avec qui je ne peux pas construire. Si c'est quelque chose de plus apaisé parce que justement chez moi ça ne l'est pas, je vais plutôt partir vers quelqu'un qui me ressemble et va me sécuriser.
C'est un sujet qui intéresse nos auditeurs. On a une nouvelle question au 3921, notre répondeur, une question de Célie, on l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour Julia, merci beaucoup pour votre émission. En fait, moi je souhaitais savoir, je vous explique la situation, avec mon conjoint, on me projette d'avoir un enfant, mais lui il est vraiment plutôt du genre à la cool, vraiment voilà, du genre d'une éducation un peu laxiste, tandis que moi j'ai été élevée et je souhaite élever mes enfants avec un cadre et des règles. Est-ce que selon vous, c'est rédhibitoire? Voilà, merci beaucoup pour votre aide.
Cécilia, alors
bah, c'est challenging, c'est ouais. Pas rédhibitoire, mais ça l'est, parce que c'est bien pour ça qu'on se met avec quelqu'un qui nous ressemble et que toutes les études viennent confirmer qu'on se met avec quelqu'un de familier. C'est pour construire quelque chose, il faut quand même avoir à peu près une même vision du monde. Quand vous construisez, ne serait-ce que si vous construisez une maison, il faut s'accorder, sinon elle ne va pas tenir debout. Donc effectivement, c'est compliqué. Dès lors qu'on entre dans l'histoire de la famille, là on parle de construire quelque chose et de s'accorder, ben, le challenge, ça va être de s'accorder sur des visions très différentes. Mmh. Je pense qu'il faut construire...
Et hyper hypothétique, on ne sait pas du tout ce que c'est d'avoir un enfant.
Et puis en plus, beaucoup de gens changent. Mmh. Alors, c'est-à-dire qu'ils avaient décidé qu'ils élèveraient comme ci, comme ci, comme ça, et débordaient finalement
oui,
pas
ça.
Du tout.
Lâche l'affaire.
Voilà, les grands principes.
Il y a les rêves et la réalité. Ouais.
Et à l'inverse, des gens qui étaient plutôt cool deviennent extrêmement anxieux et donc sont plus contrôlants. Donc là, je pense que ça vaut vraiment la peine d'établir une espèce de charte, et si vraiment on se rend compte que ça ne va pas du tout dans le même sens, on a quand même un peu une idée des problèmes qu'on va devoir affronter.
Et oui, et est-ce que, alors c'est bizarre comme question, mais je me la pose, est-ce que chez les couples homosexuels, on recherche plus souvent peut-être une personne différente de nous? Je vous dis ça parce que le fait qu'on soit déjà deux personnes du même sexe, je ne sais pas, est-ce que du coup l'altérité, on la recherche d'autant plus?
Alors, je fais rarement la distinction parce que, en fait, j'observe rarement de distinction. Les gens qui s'aiment se ressemblent. Et je vois des couples gays, je vois des couples lesbiens qui se ressemblent et d'autres qui sont totalement opposés et avec les mêmes problématiques que les couples hétéros. Donc je ne pourrais pas... ils rencontrent les mêmes problématiques que tous les autres couples.
Voilà. Et quelle que soit leur orientation
Absolument.
Sexuelle. Une dernière question, est-ce qu'on finit pas quand même de toute façon par se ressembler après 25, 30, 40, 40 ans de vie commune à force de vivre ensemble? Moi je vois mon mari par exemple,
il
a beaucoup changé, non, en bien notamment à mon contact, sur le ménage par exemple. Au début il était très bordélique et puis il voit bien que bon, bah, il faut beaucoup d'efforts.
C'est la richesse de la différence, ouais. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout comme ça au départ, il a appris, donc heureusement pour lui, il a rencontré quelqu'un de différent, sinon il serait resté bordélique. Il y a eu un article du Times en 87 qui avait fait grand bruit parce qu'il était démontré de manière assez évidente que quand on vit très longtemps avec quelqu'un, effectivement, on finit par se ressembler parce qu'on partage depuis énormément d'années les mimiques,
bien
les
sûr,
émotions, et qu'on finit exactement par finalement se ressembler.
Merci encore. Cécilia d'avoir accepté notre invitation ce matin et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le couple parfait n'existe pas, aux édition Flammarion.
On va se diriger à présent tranquillement vers notre séquence tendance dans Bienfait pour vous. Il y aura d'abord notre experte beauté, Maud Ravier, avec les dernières techniques esthétiques pour effacer ou améliorer les cicatrices. Et enfin, Cécile Coumeau, qui a observé ce qui se fait dans les Repair Café. Vous savez, ce sont ces ateliers de réparation collaboratifs où des bénévoles, tous passionnés de bricolage, réparent tout genre d'objets. Il y en a partout en France. Et on va en parler justement dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente de faciliter votre quotidien et l'on le fait tous les matins de 11h à midi en direct. Maintenant, c'est notre partie consacrée aux tendances qui débute et je me tourne d'abord vers vous, Cécile Coumeau, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors dans quelques minutes, je crois qu'on va s'initier au bricolage, c'est ça?
Oui, mais alors que ceux qui sont allergiques au moindre tournevis hein, se rassurent. Ouais, voilà, j'ai trouvé l'antidote, vous verrez.
Eh bien, restez avec nous Cécile, car on va commencer cette séquence avec l'éclairage
réparation, mais beauté, hein, de oui. Maud Ravier. Bonjour Maud.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on va réparer avec vous aujourd'hui? C'est la peau, c'est ça?
Oui, aujourd'hui on va parler des cicatrices, parce que les cicatrices, souvent malheureusement, elles sont complexantes et on peut faire vraiment des très belles choses.
Bon, on peut remarquer que chaque cicatrice est différente, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quels sont les types de cicatrices?
Alors nous avons des cicatrices qui sont hypertrophiques, c'est-à-dire qu'elles sont en relief. Vous avez les hypotrophiques qui sont vraiment creusées, un peu comme une vergeture. Et vous avez, sinon, si vous avez une bonne peau, vous avez des cicatrices blanches, mais qui, elles, sont complètement démunies de mélanocytes, c'est-à-dire qu'elles resteront blanches à vie.
Et elles sont planes, celles-ci?
Elles sont planes, justement. Donc, du coup, on peut les travailler.
Ben justement, comment on peut améliorer ces différentes cicatrices en fonction de celles que vous avez vues, là?
Alors, pour ce qui est les cicatrices hypertrophiques, moi, j'adore demander à mes clientes d'abord d'aller faire du laser, parce que c'est très efficace. Vous avez des centres spécialisés. À Paris, le centre Laser Clip est très, très... Voilà, ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est problème de peau. Pourquoi ? Parce que le laser va venir en fait stimuler, agresser les fibroblastes. Et on sait que les fibroblastes sont générateurs de tout ce qui est collagène, élastine et fabrication de
tissu. Ça va régénérer un peu le tissu,
exactement.
En fait. Hein, c'est ça.
Donc du coup, on va se retrouver après avec une peau qui sera, pour le coup, plane, cicatrisée, mais toujours blanche.
Et donc là, c'était le laser, ça c'est pour après une chirurgie par exemple, hein, c'est
exactement.
Ça quand on n'est pas
sûr de... Je conseille vraiment de faire vite du laser après une chirurgie pour que les cicatrices reviennent vite planes et en place.
Et quand elle est blanche, alors quelle technique ensuite, une fois qu'on a fait ce laser, qu'elle est plane et blanche, on fait quoi derrière?
Alors
qu'est-ce que vous
justement,
proposez?
C'est ça la technique magique que je voulais absolument pouvoir vous exposer aujourd'hui, c'est le programme Life Repair. C'est une technique qui est trop peu connue malheureusement, où on peut travailler sur n'importe quelle cicatrice blanche. Une cicatrice de lifting après une chirurgie ou tout simplement une cicatrice accidentelle. On peut travailler donc pour le côté un peu... complexe, on peut travailler sur tout ce qui est cicatrices de tentatives de suicide, de scarifications qui sont souvent très très complexantes. On a du mal à se mettre les manches courtes parce que c'est complexant. Et nous, en fait, avec ce programme, on va venir avec des aiguilles très fines, des aiguilles d'acupuncture et ainsi que des pigments qui ne virent pas dans le temps. On va venir mettre une couleur peau. Donc, on vient
c'est comme
complètement
du tatouage,
dissimuler.
Hein, c'est ça.
C'est tout à fait ça. C'est comme
vous
du
la
tatouage.
Totalement.
On la recouvre, c'est-à-dire qu'on va faire des tests couleurs. On va voir si la est plutôt jaune, plutôt rose, et on va venir mettre des pigments sur la cicatrice blanche. C'est exceptionnel.
Et bien, ça veut dire que, par exemple, est-ce que ça peut marcher si j'ai un tatouage moche que j'aime plus? Est-ce que vous pouvez me le recouvrir ou pas?
Non, il vaut mieux privilégier le laser. Et puis, par contre, attention, parce que parfois, le laser, quand il dépigmente, peut faire des petites traces blanches. Parce qu'encore une fois, ça abîme la mélanine. Et souvent, je passe avec cette technique sur les anciens tatouages pour redonner de la couleur à la peau qui a été
abîmée. Les tatouages,
abîmée.
Ça fait mal? Est-ce que ce genre de tatouage est un peu sur une cicatrice? Est-ce que ça va pas être très douloureux, peut-être?
Alors, généralement, c'est plutôt indolore parce qu'on reste très superficiel. Le but est vraiment de redonner, un peu comme un marbré, de redonner de la couleur, mais sans que ça fasse une tache blanche, une tache rose. On voit bien que les peaux, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du orange. Donc, le but, c'est de rester très superficiel et de tromper l'œil.
Honnêtement, j'ai déjà vu des résultats de ce que vous faites, vous, Maud, et c'est exceptionnel, effectivement.
Et
mais
comment,
est-ce qu'il faut faire des retouches? Est-ce qu'en une fois, c'est réglé? Comment ça se passe?
Alors, généralement, ça se passe en 2 voire 3 séances. Ça dépend de la zone qui est à traiter. Généralement, il faut faire aussi des retouches tous les 3 ans parce qu'on utilise des pigments qui sont comestibles et autorisés sur la peau. Donc, sans métaux lourds, sans laque, sans résine. Donc, ils sont complètement purs, entre guillemets, pour la peau. Donc, ça nécessite des retouches tous les 3 ans. Et pour tout ce qui est devis, moi, j'aime bien que la personne m'envoie une photo, que je puisse lui faire une proposition déjà du tarif.
Parce que plus c'est long, j'imagine, et plus c'est gros à recouvrir, plus c'est cher.
Exactement.
Quand même, ça
prend du temps et plus c'est onéreux. Mais ce que j'aime bien faire aussi, comme on sait que souvent c'est un complexe, j'aime bien leur dire, voilà, je vous propose 20% d'amélioration, 40% ou 90% d'amélioration. Et souvent, malheureusement ou heureusement, on se rend compte que même quand on propose 30% d'amélioration, les gens sont tout à fait d'accord parce que c'est déjà 30% de mieux-être pour le côté physique et esthétique.
Et puis c'est 30% de ristourne, et ça c'est bien sur le prix aussi. Non, ça n'est pas du tout corrélé.
Alors si, il faut savoir qu'on fait aussi évidemment un programme Life Repair, vous le savez, pour les femmes Octobre Rose,
oui,
ça c'est important
sûr.
De le dire,
gratuit.
Derrière des mastectomies pour reconstruire les aréoles mammaires 3D, et ça c'est assez magique dans les...
Tout le mois d'octobre, vous ouvrez vos rendez-vous justement à ces femmes-là.
Et Maud, si on n'a pas la possibilité de faire la technique de dermopigmentation, est-ce que vous avez des astuces beauté pour camoufler tout ça?
Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez trouver des fonds de teint qui sont très, très couvrants et surtout qui sont waterproof, qui ne s'en vont que à la douche avec le savon.
Et oui, parce qu'avec l'été qui arrive, là, si je mets du fond de teint, ça va partir dans la mer.
Pour les complexés, ça peut marcher très bien aussi pour les varices, pour les cicatrices, pour les hématomes. Mais en tout cas, ne restez pas avec vos complexes. Il y a vraiment des solutions. protection. Donc, les fonds de teint couvrants waterproof, il y a plusieurs marques comme Covermark, Full Cover de Makeup Forever, Total Cover. Voilà, regardez sur Internet, vous allez voir, il y a des très, très bons produits.
Et ça fonctionne bien.
Et ça fonctionne extrêmement bien.
Merci beaucoup, Maude, pour tous vos conseils beauté avisés. C'était très clair. On va à présent poursuivre l'atelier bricolage de ce jeudi avec Cécile Coumeau. Vous êtes notre chroniqueuse spécialiste des tendances pour les quinquas et plus. Et comme à cet âge, eh bien, on n'a pas spécialement envie de faire bande à part. Vous êtes très à l'affût aussi de tout ce qui est intergénérationnel. Et donc, vous êtes allé faire un tour dans un repair café. C'est quoi ce nouveau concept, alors?
Eh bien, comme son nom l'indique, hein, c'est un lieu où on peut faire réparer gratuitement ces objets du quotidien par des bricoleurs bénévoles. Ces ateliers, ils jouent la carte de la proximité puisque globalement, les bénévoles et ceux qui viennent faire réparer, eh bien, ils habitent a priori dans le même quartier, dans la même ville. Alors en fait, ce concept, il est né aux Pays-Bas en 2009. C'est une militante écologiste qui les a inventés. L'idée de Martine Postman, c'est de lutter contre finalement la société du tout jetable. Vous savez, vous avez par exemple, je sais pas moi, votre rasoir qui marche plus, hop, à la poubelle, on essaie même pas de le réparer, quoi.
Non mais c'est vrai, mais même si j'essaie, moi j'ai tellement peu de chance d'identifier la panne parce que le bricolage, chez moi, ça fait deux, quoi.
Oui, moi aussi, bon, on est d'accord. Mais à la fois, vous n'avez peut-être pas envie, malgré tout, de le jeter, de vous laisser avoir par, vous savez, l'obsolescence programmée qui fait que bien, la durée de vie de plein d'objets est volontairement réduite. Donc la solution, eh bien, c'est d'aller dans ces repair cafés qui sont arrivés en France à peu près en 2017. Alors non seulement vous repartez avec l'objet réparé, enfin pas dans tous les cas, mais enfin dans beaucoup de cas, mais vous aurez peut-être aussi appris à le réparer. Parce que c'est ça le concept. Ces ateliers reposent vraiment sur l'échange et sur l'apprentissage en commun. C'est
moi,
ça,
je veux bien échanger, mais apprendre, franchement, pas,
ça vous intéresse pas. Mais
échanger, j'adore. Hein, franchement, il n'y a pas de problème. Cécile, je suppose que vous êtes allée dans un repair café près de chez vous. Comment ça fonctionne alors?
Alors, je suis allée un samedi après-midi à celui d'ici les Moulineaux. Hein. Il a été créé par Chérifa il y a un peu moins d'un an. Alors, son but à Chérifa, après la prise du Covid, c'était de créer de la cohésion sociale, que chacun sorte de chez soi et s'entraide. Et ça marche. Des habitants d'ici et même des environs, il y en a eu qui ont défilé, mais toute l'après-midi.
C'est vrai. Mais c'est quoi le profil des bricoleurs? Ce sont plutôt, je sais pas, des seniors, je les imagine comme ça, non?
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de retraités. À ici, les Moulineaux, il y en avait 5 quand même, hein, c'est pas mal. Il y avait Michel, le doyen, Antoine, Didier. Mais il y avait cette année aussi, par exemple, un étudiant BTS des systèmes numériques. En fait, ils sont plusieurs du lycée technologique voisin. Génial. À venir donner un coup de main comme ça. Et malgré le beau soleil, ils sont restés 4 heures comme ça à essayer de redonner vie à des objets très variés, comme nous l'explique Chérifa.
Très généralement, ce sont des grille-pains, des bouilloires, des téléphones, des ordinateurs, des radiateurs, des fours, télé. Normalement, on ne devrait pas accepter de télé parce qu'en général, le repair café, on dit qu'on vient réparer que ce qu'on peut porter dans la main. Mais bon, si on a un voisinage vraiment de proximité et qui peuvent l'amener avec une petite roulotte, nous, on n'est pas contre. On nous a ramené une fois une horloge familiale, les horloges Comté, là, qui dataient du siècle dernier. Et ça, c'était assez magique parce qu'on a réussi à réparer cet objet.
Alors évidemment, je vous dis, les bénévoles, c'est quand même pas des magiciens. Parfois, ils parviennent pas à réparer l'objet. Bon, majoritairement, ils y arrivent, mais bon. Alors, aussi, il faut préciser que dans ces repair cafés, il n'y a pas de pièces détachées. Donc, ils vous disent, voilà, il manque telle pièce détachée, vous pouvez l'acheter, la mettre vous-même si vous y arrivez, ou alors vous revenez la
fois
d'après.
Une deuxième fois, c'est super sympa.
Alors, ce qui m'a frappé aussi quand j'y suis allée, c'est que c'est une école de la patience, en fait. Par exemple, il y avait une habitante d'ici les Moulineaux qui était venue une première fois, il y a quelques semaines, pour faire réparer un poste de radio. Mm-hmm. Apparemment, c'était un faux contact. Et puis, ils n'avaient pas eu le temps de le réparer. Eh bien, qu'à cela ne tienne, elle est revenue ce samedi.
Ça fait quelques années que je l'ai dans un coin et que je n'ai pas voulu l'acheter en me disant qu'il y avait un faux contact et qu'on pouvait certainement la réparer. Donc, je n'ai pas eu le cœur de la jeter.
Il me semble qu'il y a quelque chose là de coincé, mais on va voir ça. On va démonter l'appareil et on va regarder ce qu'il en est. Monsieur Antoine, regarde, est-ce que tu te souviens de cette jolie radio? Est-ce qu'elle est, elle a été entre tes mains?
Comment ça marche déjà?
Alors après Chérifa, c'est Michel qui s'est mis, puis Antoine, comme vous voyez, qui a été appelé au chevet de ce poste de radio, qui n'avait quand même pas l'air de la toute première jeunesse.
J'ai pas de jus, là. Non, il marche pas. Soit il est coupé quelque part, soit il est à chasse.
Ça a l'air mal parti.
Pourtant, réparer un poste radio pour écouter Europe 1, c'est une très bonne idée.
Ben
voilà, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple.
Ça pas l'air
c'est
bien
ce que
parti,
je pensais hein. aussi. Hein. Je suis revenue plusieurs fois pour voir comment. Je me disais, bon, là, ça va pas marcher. Et ça faisait déjà une petite heure que tout était tenté pour leur animer ce poste de radio quand tout à coup, Antoine pose le diagnostic.
C'est l'entrée qui est là.
Oui.
Et la patte, elle est fissurée juste sur le circuit, là. La soudure,
la pâte, c'est une soudure en fait qui est fissurée.
Oui, oui. Ça, vous regardez?
Oui, je veux bien.
Tu veux que je te mette la lumière?
Donc c'est le truc plat là.
Oui. Ça va être réparé. Hein.
Monsieur a l'air de connaître son affaire.
Donc vous voyez, le braculeur, il prend le temps de vous expliquer ce qui se passe, de vous le montrer. Après, il a quand même fallu remonter le tout. Bref, cette remise en état, ça a quand même pris 2 heures. Mm-hmm. Mais tout le monde est reparti vraiment avec la banane. Hein.
Et voilà, et en plus avec Europe 1 dans le poste. Alors Cécile, des Repair Café, tout le monde n'en a pas un à sa porte?
Non, mais ça fleurit vraiment un peu partout. Alors il y en aurait 2335 quand dans même, le monde. Pour le moment, ça fait pas mal. 42 000 articles seraient réparés par mois. Et rien que le réseau Repair Café Paris, vous pouvez aller sur internet, vous verrez, il en compte pas moins de 20 ateliers. Et il y en a aussi dans des villages, hein. C'est ouais, pas que dans les grandes villes. Donc il faut chercher, vous pouvez trouver.
Maud, vous avez un objet à réparer là qui vous vient en tête?
Non, là pas tout de suite. Mais en tout cas, je dis que c'est écologique et sympathique parce qu'on fait des rencontres aussi.
Ah ouais, ouais, non, et puis Repair Café, il y a évidemment café, des petits gâteaux et tout ça. Hein,
ah, peut y aller si on n'a rien à réparer, juste pour la compagnie.
Juste pour le côté sympathique.
Et si on veut rencontrer quelqu'un qui nous ressemble, ou qui nous ressemble justement, quelqu'un qui sait réparer, ça c'est bien.
Ça serait bien un complément. Eh bien, merci beaucoup, Cécile, pour cette enquête. Moi, j'ai 2-3 petites choses à la maison à réparer. Je crois que je vais aller chercher le Repair Café le plus proche de chez moi. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous aujourd'hui. Bien fait pour vous, c'est fini. Mais nous serons bien évidemment de retour demain dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre grand sujet du jour?
Eh bien, on va s'intéresser à un sujet de société très important et qu'on a tendance à passer sous silence. On va parler du problème de l'obésité en France. De plus en plus de personnes sont en surpoids ou obèses. Alors, quelles sont les causes de cette pathologie? Comment la prend-on en charge actuellement? Pourrait-on faire mieux? On répondra à toutes ces questions.